c'est Raymond Poirier. Alors, à la vie en BD cette semaine, on va vers un album qui est sorti tout récemment, qui s'intéresse à un genre que j'affectionne beaucoup, qui est le genre horrifique. On l'a vu évidemment du côté du cinéma, on le voit tranquillement, peu à peu, dans la sphère de la bande dessinée. Et j'ai l'impression qu'au Québec, une bonne partie du peu à peu est due à l'auteur de cet ouvrage qui s'appelle Chanson Noire. Il est avec nous, Jake Dion. Bonjour.
Allô Raymond, merci de me recevoir, c'est un honneur.
Ça me fait plaisir de te recevoir et merci pour les lectures. En fait, on avait jasé il y a déjà un certain temps d'Alice que tu avais fait avec Patrick Sénécal. Tu as fait d'autres récits d'ailleurs à tendance horrifique dans le passé. Je pense entre autres à l'Asile de Saint-Iscariote. Tu as fait des nouvelles, bon, des trucs un peu plus science-fiction. On pense à Turbo Kids, entre autres. Et avec Chanson Noire, ben, tu reviens, tu poursuis, j'aurais envie de dire, dans le genre horrifique au sens large, évidemment. Mais tu le fais pour la première fois, Jake, en tant qu'auteur complet, dans le fond, donc scénariste ouais. Et dessinateur. Je me rappelle dans l'entrevue que tu avais faite autour d'Alice où tu disais que tu avais quand même eu pas mal de jobs d'adaptation, de travail autour du scénario. Est-ce que c'est justement l'expérience acquise là-dessus qui t'a fait te rendre compte que t'étais prêt, que tu avais tout en toi pour faire le saut comme scénariste et dessinateur?
Mais c'est exactement ça, c'est parce que dans le fond, en éditant le scénario de Patrick, tu sais, ça a pris quand même 4 mois. Hein. Puis ça, c'était comme, je l'avais déjà raconté à l'autre entrevue, mais tu sais, c'était enlever une phrase ici, enlever une scène là. Ah, là, finalement, si j'ai enlevé cette scène-là, ben là, il faut que j'enlève ça aussi. Ah, ben là, si on enlève ça aussi, là, il nous manque une scène plus tard. Fait que là, on remet ça, mais on enlève d'autres choses. Tu sais, c'était vraiment un travail quand même assez intense. Puis, c'est que moi, je pense que je manquais de confiance avant... À ce niveau-là, justement, genre le niveau plus technique de l'écriture. Donc, éditer, être capable de gérer le rythme, tu sais. Puis, en travaillant avec Patrick, j'ai fait comme, ben là, si je suis capable d'éditer Patrick Sénécal, je suis sûrement capable de m'éditer moi-même. Fait que c'est le petit boost qui me manquait de confiance que ce projet-là m'a donné.
Et après ça, tu as pu retourner au Jake à 8-10 ans qui avait envie qu'il écrivait ses histoires. Puis là, te donner la liberté, dans le fond, de te mettre en scène toi-même.
C'est ça, tu sais, c'est exactement ça. Fait que ça, le plan n'a jamais été d'être le dessinateur de quelqu'un d'autre. Le plan, à la base, c'était de faire mes propres BD. Puis c'est la vie qui a pris un chemin comme ça. Tu sais, ça a commencé avec Perrault, puis Amos d'Aragon, puis La Grande Illusion, tout ça. Puis ensuite, les gens m'approchaient à cause de ces projets-là. Puis c'est tout de suite après Alice, j'ai eu beaucoup d'offres d'adapter un film, adapter un roman. Puis là, j'étais comme, ah ouais, c'est ça. T'sais, là, j'ai comme, le chemin se divise en deux. Là. Je peux soit prendre cette route-là, puis j'avais l'impression que j'allais être comme un peu piégé là-dedans, ou soit justement revenir au plan initial, puis faire comme, attends, là c'est le temps que tu écrives tes propres histoires. Là.
Et nécessairement, en fait, ça me surprend pas tant que ça, parce que comme j'ai numéré au départ, le fantastique et l'horreur semblent avoir toujours été des créneaux qui t'ont intéressé d'un point de vue narratif, d'un point de vue visuel. Donc, j'imagine que c'est pas par hasard non plus que comme premier récit, tu choisis de te lancer avec un récit qu'on entrerait dans le genre horrifique.
Oui, en même temps, c'est drôle. Je me suis fait poser la question dernièrement si c'était une histoire que je portais depuis longtemps. Puis, tu sais, souvent, c'est ça, hein, un premier album, c'est... C'est une histoire que tu as depuis que tu es ado, puis là, enfin, tu peux la raconter. Mais pour Chanson Noire, c'était pas du tout le cas. Je dirais pas que c'était une commande, mais c'est Glenna qui m'a approché quand j'étais en train de terminer Alice. Donc, Alice n'était même pas sortie encore. Puis, ils m'ont fait l'offre la plus flatteur au monde, c'est-à-dire qu'ils ont dit ton prochain projet, peu importe c'est quoi, tu as un éditeur. En voulant dire, c'est eux. Fait que là, c'était comme wow. Et au départ, c'est que... Comment que ça fonctionne avec Glénat Québec, c'est que c'est quand même une division de Glénat France. Donc, c'est pas tous les livres que Glénat Québec publie qui se ramassent en France, mais c'est possible. Puis moi, je voulais que ce soit possible. Fait que on m'a conseillé. On a dit, si t'écris une histoire de zombies qui se passe à New York, Glénat France, là, eux autres, ils en ont une pelletée de ça. T'sais. Puis ils ont des Américains qui vont écrire pour ça, des Italiens, puis whatever. Tandis que si tu fais quelque chose qui est propre au Québec, ben là, tout d'un coup, tu te distingues. Parce que il n'y a personne d'autre qu'un Québécois qui peut écrire une histoire sur le Québec. En tout cas, on comprend ce que je veux dire. Fait que tout de suite, ça a été la première contrainte. J'ai fait, OK, il faut que ça se passe au Québec. Puis ensuite, c'est un hasard, là. C'est une circonstance vraiment pas rapport. J'en ai avec ma blonde, puis je parlais d'harmonium, puis j'étais comme, ah, si j'ai ça, harmonium. C'est tellement quétaine, parce que, en fait, je connaissais pas le band, et la seule chose que je connaissais du band, c'était les maudites tunes qu'on chante à Saint-Jean. Fait que j'avais comme cette image-là du groupe un peu mononcle. Puis là, ma blonde me dit, attends, tu connais pas pantoute harmonium, t'as jamais écouté l'heptade, t'sais? Puis je suis comme, non, je sais pas c'est quoi. Et là, elle me fait découvrir l'heptade, qui, tant qu'à moi, un des grands chefs-d'œuvre de la musique québécoise, ça m'a jeté à terre. Je l'ai écouté, là, tu sais, pendant une longue période de temps, là, je l'écoutais presque tous les jours. Je lisais les paroles, je braillais. Tu sais, c'était comme, c'était vraiment la grosse affaire. Sauf que dans l'heptade, à travers les tunes, il y a des segments symphoniques. Puis ces moments-là, j'avais des flashs, puis à cause des années dans lesquelles ça a été fait, à cause de l'ambiance qui est, par moments, là, horrifique un peu, là, tu sais, c'est angoissant, là, l'orchestration, puis tout, fait que j'ai commencé à avoir des images de... comme une commune de hippies, mais il se passe de quoi de weird, puis là, je voyais tout de suite un éclipse, puis... fait que, tu sais, finalement, la pochette, là, c'était un des... La pochette de Chanson Noire, c'était un des premiers flashs visuels que j'ai eus. Puis là, j'ai fait, ah, mais attends, c'est ça. Ça se passe au Québec. Fait que, oh, OK. Fait que là, ça m'a déjà dirigé. Puis ensuite, ben là, j'ai commencé à l'écrire. Et regarde ça, c'était un couple qui sont comme semi... en break-up, ou en tout cas, il y a des tensions dans le couple qui se ramassent en campagne dans une espèce de secte, mais je voulais des couleurs super lumineuses, presque pastel, puis que dans le fond, tu sais, peu importe qu'est-ce qui se passe dans la secte, c'est un peu dark, mais c'est une grosse représentation ou une allégorie du break-up. Ou, tu sais. Et là, le film Midsommar est sorti. Puis c'était exactement ce que je viens de décrire. Fait que là, j'étais comme, oh, attends, ça marche pas. Puis je me rappelle que j'étais comme, je dis à ma blonde, tu sais, vu que c'était le premier album que j'écrivais comme plus sérieusement, Midsommar sort, j'étais en plein milieu de mon écriture, je suis comme, c'est donc bien rushant, les écrivains, là, attends, là, faut qu'ils réécrivent tout le temps, genre, qu'il y ait quelque chose qui ressemble à leur histoire, t'sais. Puis évidemment, elle me disait, tu sais, tu pourrais raconter la même histoire, mais tu sais, tant que t'aies ton... Parce qu'il faut que je le mentionne, ma blonde est metteur en scène puis est écrivaine aussi, fait que est dramaturge, fait que elle me donnait des conseils une fois de temps en temps. Et fait que bref, j'ai dû réécrire Chanson Noire en changeant des éléments, fait que c'est pour ça que ça se passe comme dans une maison en campagne qui le couple a hérité de plutôt qu'une commune avec une secte et etc. Des petits trucs comme ça, t'sais, c'est plus une allégorie sur comment que le couple peut vivre des tensions, vivre des conflits, puis s'en tirer, plutôt que une métaphore sur le break-up, mettons. Fait que, tu sais, il y a des couples de trucs de main qui ont changé.
Et si on fait un petit peu de recul avant de plonger justement dans le narratif, j'aimerais rester encore un peu harmonium. Dans la mesure où tu te dis, dans le fond, tu écoutes l'album, tu découvres le band, tu fais des images. Et j'imagine que, dans le fond, tu sais que tu veux écrire un récit, tu sais que tu veux écrire un récit d'horreur, donc tu as ton style un peu, tu as des éléments dans l'idée, mais j'imagine qu'à un moment donné, c'est un peu des pièces d'un puzzle aussi qu'il faut que tu assembles. Donc, tu vois un décor, tu vois une époque, tu vois des personnages, mais c'est quoi leur relation? Puis après ça, bon, tu vois Midsommar, puis tu dis comment m'en distancer, comme on vient de le dire. Mais dans le fond, ça devient un peu une job au départ d'assemblage, donc de bâtir une histoire à partir d'une idée globale d'un monde ou d'un cadre de type que tu veux explorer aussi.
C'est ça. Puis tu sais, ça, c'est un autre truc qui... Parce que quand j'ai décidé d'écrire moi-même, je me suis tellement pris au sérieux, là. Pas de bon sens.
Les premières fois, on veut bien faire les choses.
Exact. Fait que là, j'ai comme lu tout ce que je pouvais sur l'écriture. J'ai lu le livre de Stephen King, d'Alan Moore, j'ai lu Story de Robert McKee, je me suis inscrit au masterclass de Neil Gaiman. J'ai vraiment pris ça au sérieux. Tout mon algorithme YouTube, c'était juste genre tips for screenwriters, et etc. Puis une des affaires qui m'effrayait au début, surtout quand j'ai lu le livre On Writing de Stephen King, c'est que lui, tu sais, il a pas de plan. Il s'assit, puis il commence à écrire, puis il check où l'histoire va le mener. T'sais. Puis il peut écrire 4-5 heures par jour de même. Puis moi, je suis incapable de faire ça. Fait que là, ça me terrifiait, ça. J'étais comme, hey, peut-être que je ne l'ai pas, parce que justement, ce que tu viens de dire là sur le puzzle, ben c'est juste ça que j'avais. J'avais comme des morceaux que je savais pas encore comment ils fitaient ensemble. J'étais comme, mais c'est-tu de même que les vrais écrivains y écrivent? Puis ensuite, j'en ai parlé justement avec Patrick. Puis il était comme, ah non, non, moi, oublie ça, là. Moi, ça me prend un plan. Puis, tu sais, au début, c'est juste des idées floues. Puis finalement, ils se concrétisent. Plus tu fais des liens entre les trucs. Puis là, j'étais comme, OK, un peu comme je suis en train de faire. Puis, tu sais, c'est un peu naïf de ma part avec le recul, mais sur le coup, on dirait que je cherchais une méthode, genre comment qu'on fait pour de vrai, tu sais. Un peu comme les premières fois qu'un auteur de BD se lance dans les pages, tu sais, il veut le bon format de papier, il veut la bonne encre, mais tu sais, finalement, tu regardes Jim Beaulieu qui peut faire tout avec un stylo Bic sur des feuilles 8,5-11 puis pondre un chef-d'œuvre, tu sais. Fait que c'est pas à propos vraiment des outils ou de la technique, c'est plus à propos de qu'est-ce que tu as raconté, puis trouve ton propre chemin pour y arriver.
Oui, en fait, trouve ton confort, puis veux pas, mais ton confort comme dessinateur, tu l'as déjà, ça fait longtemps que tu le fais, donc tu t'es développé de ce côté-là, puis j'imagine que c'est la partie scénariste qui devient un peu confrontée, parce que tu sais que quand tu vas arriver au dessin, là, ça va couler de source, t'es capable de travailler à partir d'un scénario, de le développer, de l'amplifier, mais dans le fond, il faut que tu trouves aussi ce confort-là au bout du compte pour être capable de te structurer, puis éventuellement, j'imagine, pouvoir aussi prendre ce que tu as appris avec Chanson Noire, puis le pousser vers tes prochains projets personnels aussi.
Mais en même temps, tu sais, douter, parce que tu t'es dit, ton confort est plus dans le dessin. Oui, puis non. Moi, je me trouve toujours aux poches, puis je trouve que c'est jamais assez bon, là. Puis je pense que c'est une bonne chose. Tu sais, juste avant que l'album sorte, Chanson Noire, je disais à mes amis que j'avais le syndrome de l'imposteur, tu sais. Puis que là, comme la BD va sortir, et là, le monde entier va réaliser que Jake, c'est juste un dessinateur, puis il devrait pas écrire, puis tu sais, cette espèce de peur-là. Puis là, tu sais, mes amis essaient de me réconforter, puis pendant qu'ils me réconfortaient, j'étais comme, ouais, mais en même temps, je pense que c'est bien d'avoir ça. Je pense que c'est mieux de douter de soi-même que de justement faire que, ah, là, tout le monde va comprendre que c'est moi le meilleur, tu sais. Puis je pense que tant que tu continues à douter de toi, tant que ça soit pas maladif, là, tant que ça soit pas paralysant, là, mais je pense que c'est comme ça qu'on réussit à tout le temps évoluer puis à tout le temps s'améliorer.
Mais c'est qu'on a grandi avec le proverbe « dans le doute, abstiens-toi », qu'on a parfois peut-être un peu trop tenu à cœur, alors que c'est pas le cas, effectivement. C'est pas parce que tu doutes qu'il faut pas que ça t'astreigne, mais ça te fait prendre conscience un peu de ce que tu es en train de faire. Mais effectivement, à un moment donné, tu as envie de te lancer, il faut que tu le fasses. Puis j'imagine qu'à un moment donné, le fait que Jake Dion avait envie de le faire, avait envie de se lancer, de se défier, mais a pris un peu la partie principale versus le Jake Dion qui doutait de sa capacité à le faire, au bout du compte.
C'est ça. T'sais, moi, j'ai pas d'enfant, mais toi, je pense que tu as des enfants.
Oui.
Mais tu sais, c'est ça. C'est est-ce qu'un moment donné dans ta vie, tu fais que, ah, voilà, je suis prêt à avoir un enfant maintenant. Tu sais, c'est tu vas tout le temps, ça va jamais être le bon moment, tu vas tout le temps douter, tu vas tout le temps avoir peur de « Ah, on a-tu assez d'argent? Ah, ma carrière est-tu assez stable? » Mais à un moment donné, il faut juste que tu y ailles, puis tu jumpes. Puis, ben, c'est ça que j'ai décidé de faire pour la BD. C'est mon enfant, c'est mon premier bébé.
Puis on te prend d'ailleurs quelques semaines après le lancement, donc j'imagine que la pression des premiers jours est descendue parce que là, l'album a été lancé, tu as déjà des premiers lecteurs. Puis avant qu'on plonge dans l'album comme tel, là, j'imagine que le Jake qu'on a aujourd'hui est peut-être un peu moins stressé que si je t'avais jasé il y a 2 mois.
Ouais, exact. Si tu m'avais parlé une semaine avant que l'album sorte, là, j'aurais... j'aurais navigué à travers des questions de genre, ouais, ben je sais pas trop. Tandis que là, il y a une belle, j'ai des beaux retours, puis il y a une belle couverture de presse. Juste ça, ça m'a comme mis en confiance de voir que il en parlait dans la presse, dans Le Devoir, Journal de Montréal. Fait que là, ça a fait OK, c'est une vraie BD, là. Les gens en parlent comme si c'était un vrai livre, là.
Et puis j'imagine que le succès d'Alice aussi, où en fait, tu avais d'autres albums avant, mais
Ben oui.
Alice a un peu assis
Ben
ton
oui.
nom, puis dans le fond, a donné aussi, a créé des attentes parce qu'on savait ce que tu étais capable de nous donner.
C'est comme si c'était prévu.
Et en même temps, de fait, la comparaison tantôt, puis je pense qu'on peut plonger à fond dans Chanson Noire, justement, dans l'idée, si on commençons par la distinction, dans le fond, ne serait-ce que dans les couleurs, je pense que les gens vont le voir la seconde où ils vont ouvrir l'album. Tu l'as dit tantôt, Jake, Alice, c'est un album qui était sombre, qui était sale, des couleurs glauques vertes, si on peut dire. Chanson Noire, d'un point de vue esthétique, d'entrée de jeu, on est ailleurs, on est dans un album qui est franchement plus lumineux. J'imagine que tu avais d'entrée de jeu pas envie de te répéter d'un point de vue style,
Ouais,
tantôt.
c'est ça. Ça faisait partie, quand je disais que j'écoutais l'album d'Harmonium, les premiers flashs, là, c'était très lumineux. Puis je me rappelle même quand j'ai vu la pochette de Leptad, j'étais comme, ben voyons, le ciel rouge et tout, tu sais, parce que j'avais écouté l'album, mais on l'avait pas physiquement, fait que je l'écoutais en streaming. Puis quand j'ai vu la pochette, j'ai fait, ben voyons donc, c'est drette ça l'image que j'ai. Fait que, tu sais, t'as parlé d'un rouge tantôt très giallo, italien, Dario Argento, tout ça. Ça, c'était comme une des premières inspirations. Puis en même temps, cette année-là, le grand maître Richard Corben est décédé. Puis je connaissais déjà Richard Corben d'un paquet de trucs, Hellboy, mais je connaissais moins son travail en début de carrière. Puis je me suis comme tout acheté ça, puis c'est exactement l'influence ou la petite clé qui me manquait, là, c'est quand je regardais ces pages, j'étais comme, OK, on a le droit de faire ça, on a le droit de mettre du mauve dans le ciel, puis on a le droit de mettre du jaune dans un œil, puis tu sais, cette espèce de liberté psychédélique-là, là, parce que aussi, ça fitait avec l'époque là, des années 70, justement, le trip LSD psychédélique. Fait que c'est ça. Fait que Richard Corben aussi, c'était une grande inspiration. Puis quand on regarde les films de Mario Bava ou de Dario Argento, puis tu regardes les BD de Richard Corben, tu es capable de faire des liens, faire que, ah ouais, OK, c'est au niveau de l'éclairage, des ambiances, des couleurs. Donc voilà.
Oui, puis en fait, d'autant, puis je pense que c'est important d'en parler d'entrée de jeu, de la couleur, parce que pour moi, j'aimais une idée, là, mais ce qui fâche en termes d'horreur en bande dessinée, ça va être l'ambiance. Ça va être l'ambiance qu'on va être capable de générer, puis la couleur, l'aspect esthétique aux côtés de l'aspect scénaristique, c'est ce qui va générer cette ambiance-là. Donc, j'imagine qu'il faut rapidement que tu trouves tes couleurs, le look, l'esprit général de ce que tu vas proposer aussi.
Oui, puis ça, c'est un sujet qui continue à me fasciner aujourd'hui parce que, comme tu as dit, on associe, mettons, l'horreur à plusieurs trucs, mais au cinéma, il va avoir vraiment l'idée du rythme, puis du jump scare, puis ce genre de truc-là, qu'en BD, inexistant. Tu peux pas avoir un jump scare. Quoique c'est débattable. Il y a Guillermo del Toro qui parlait de Junji Ito. Mon Dieu, je fais beaucoup de name drop. Qui finissent en O.
Mais c'est du bon name drop, par exemple.
Ben, Guillermo del Toro parlait de Gio de Junji Ito. On dirait Locolacas qui parle. Là-dedans, il y a une espèce, tu sais, c'est l'histoire que des poissons sortent de l'eau puis commencent à nous attaquer, puis ont des espèces de pattes d'araignée. Puis évidemment, il y a un requin blanc, un requin géant là, qui sort avec des pattes d'araignée. Puis ils courent après les personnages principaux. Puis à un moment donné, ils s'en sortent. Puis tu tournes la page, puis ils te défoncent. Puis j'avoue que ça pourrait peut-être ressembler à un jump scare, ça. C'est Del Toro, justement, il disait quand il a lu ça, il a fait « Oh! » Il a comme reculé du livre. Fait que peut-être, mais c'est quand même rare. Sinon, justement, il faut que ça repose sur l'ambiance, sur un visuel qui... Moi, ce que j'aime essayer de faire, c'est l'ambiguïté, là. Si c'est trop clean, trop clair, je pense que pour l'horreur, on perd une espèce d'ambiance. Fait que ça, c'était voulu dès le départ qu'il y ait des dessins qui ont l'air presque pas finis par moment, ou qu'il y ait des textures qui viennent par-dessus d'autres éléments pour que tu vois moins bien ce qui se passe. Puis c'est comme une des choses que je trouve que le médium peut offrir qui est plus dur à répliquer, mettons, au cinéma.
Oui, mais en fait, c'est que tu peux t'as pas besoin de filtre ou d'éléments, dans le fond, tout est dans ton médium initial. Puis tu parlais, dans le fond, du trait, tu sais, je pense qu'on peut faire un clin d'œil au trait aussi avant, qui est très nerveux, dans le fond, très croqué aussi. Puis encore là, tu joues aussi avec les dimensions, avec les personnages et les séquences qu'on explose aussi un peu là-dessus. On y reviendra, mais tu sais, dans le fond, est-ce que ce trait-là s'est fixé rapidement? Donc, l'idée d'un trait assez nerveux, des superpositions de traits, etc.
Ça c'est drôle parce que pour les gens qui connaissent mon travail, ils savent que je dessine super sketch, tu sais. Mais toutes mes autres BD avant Alice, même si on a l'image, parce que, mettons, t'as vu mes illustrations, tu me suis sur Instagram, whatever, t'as comme l'impression que c'est des BD qui sont dessinés sketch. Mais si t'ouvres Amos d'Aragon, tu te rends compte, c'est pas sketch pantoute. Puis Turbo Kid non plus, même que Turbo Kid, c'est très clean, tu sais, comme ligne. Les gens ont en tête que c'est sketchy, mais tu sais, j'en parlais avec ma grande chum Axel, qui est autrice de BD aussi, puis elle était comme, non, non, mais Turbo Kid, tu sais, c'est sketch, là, tu fais un petit trait nerveux, puis tu sais, j'ai juste ouvert, puis j'ai montré, puis c'est une ligne, tu sais, très droite et parfaite et souple, là. Fait que j'étais comme, non, là, j'ai envie de faire une vraie BD sketch, pour de vrai, tu sais. Moi, un de mes grands idoles au Québec, c'est Jim Beaulieu. Puis à chaque fois que je lis une de ses BD, ça me dépasse comment qu'il. En tout cas, c'est l'impression qu'il donne, mais comment qu'il est libre à travers son dessin. Puis comment que son dessin est efficace. T'sais. Puis il suggère beaucoup, mais en même temps, il est tellement contrôlé. T'sais. Puis c'est que moi, c'est quelque chose de même que j'aimerais réussir à faire un jour. Je dis pas que Chanson Noire, c'est ça. Je dis pas ça du tout, mais. Dans mon idéal, j'aimerais m'approcher de tout ça. T'sais.
Oui,
Fait
puis en même temps,
que.
j'imagine qu'en faisant une première BD, comme auteur scénariste, dessinateur, mais tu dis, c'est comme je veux aussi faire quelque chose qui ressemble à mon style, à moi, de pas essayer d'adapter mon style à
Exact.
l'univers littéraire de quelqu'un d'autre, puis aux besoins du récit de quelqu'un d'autre, mais à la limite, j'ai plutôt envie d'adapter mon récit en fonction des besoins du Jake dessinateur que je vais avoir à alimenter.
En même temps, tu sais, ça reste à voir parce que là, je suis en train d'écrire un autre BD qui est plus comédie dark, disons. Puis c'est que l'histoire demande un autre style de dessin complètement différent. Fait que, tu
Je
sais,
veux
c'est.
pas, faut servir l'histoire d'abord et avant tout avec le dessin, on dit tout le temps. Et
Ouais.
dans ce cas-ci, c'est ça, c'est à la limite ce que je me disais, c'est est-ce que tu as bâti aussi ton histoire un peu pour t'orienter vers ce style-là, ou c'est simplement à un moment donné où tu t'es dit, ben, justement, le style que je développe, que je pousse, que je fais quand je m'amuse ou quand je travaille autre chose que les productions BD, ben, c'est celui-là qui cadre le mieux avec le récit que je veux raconter.
Ouais, c'est ça, c'est. Tout part des flashs, hein, de départ. Puis t'essayes de revenir à ça tout le temps. La pochette de l'album de BD, c'est le premier flash que j'ai eu, mais c'est aussi la première illustration que j'ai faite. J'ai fait la couverture avant même de toucher une page d'intérieur. Fait que c'est tout le temps de se référer à ça, t'sais, de revenir à ces premiers flashs-là, là, t'sais. Mais après ça, tu sais, en 2021, j'ai fait l'exercice de poster une illustration par jour sur Instagram. Fait que ça te pose la question aussi, tu sais, c'est quoi mon. C'est où je suis le plus à l'aise en termes de style, tu sais. Puis, ben, si on va voir l'Instagram, la réponse, c'est je suis pas à l'aise nulle part. Il y a tout le temps de quoi de nouveau, tout le temps de quoi de non maîtrisé. Tu vois que, oh, il a essayé de faire ça. Oh, il l'a peut-être pas atteint, mais il a essayé de faire un truc là.
Et en même temps, on parlait de superposition sur le plan du trait, mais on pourrait en parler aussi sur les couleurs. Dans le fond, on mentionne le rouge. On pourrait mentionner les autres couleurs aussi. T'sais. Mais l'impression que j'en ai, c'est que c'est comme par exemple, on n'est pas dans du rouge pur, c'est pas un aplat de couleurs que tu vas mettre avec un ton qui est comme impeccable, mais c'est une couleur qui est composée d'une série d'autres couleurs aussi. Donc, il y a un jeu de superposition là-dedans comme tel, parce que ce qui, c'est une couleur qui est quand même texturée au bout du compte que tu nous donnes.
Ouais, ben, comme je t'expliquais un petit peu plus tôt, c'est en fait, quand j'ai fait Alice, c'est le premier album que je faisais traditionnel. Donc, c'était tout encre de Chine, aquarelle. Et le rouge, c'est la seule couleur qui était rajoutée à l'ordi parce que justement, je voulais que ce soit un rouge uni. T'sais. Et quand j'ai fini cet album-là, j'étais comme je ne retournerai plus jamais digital parce que j'ai eu trop eu de fun à travailler traditionnel. C'était le fun, ça allait vite. J'aimais l'odeur du papier, l'odeur de l'encre. Puis là, la pandémie est arrivée, je me suis acheté un iPad Pro juste pour l'utiliser comme une tablette. Puis là, j'ai découvert Procreate, puis j'ai juste fait comme je vais essayer de faire une page, genre voir qu'est-ce que ça donne sur ce petit programme cheap qui coûte 25$. Ouais, c'est ça, exact. Puis j'ai fait la page. Puis là, j'ai pris un screen, j'ai pris une photo de la page avec mon téléphone, je l'ai envoyé à Axel. Puis elle m'a dit, hey, c'est super beau, elle dit, c'est traditionnel ça, hein? tu continues comme Alice, là, tu sais. Puis c'était une page complètement faite à l'ordi. Puis là, j'ai fait, oh, si elle est même pas capable de le voir, ça veut dire qu'il y a quelque chose de. Il y a quelque chose là, là. Puis évidemment, ben, ça s'est transformé plus l'album s'est développé. Puis. L'iPad, c'est aussi un appareil photo. Fait que, tu sais, des fois, j'avais une toile à côté, je le prenais en photo, j'incorporais ça, tu sais, pour avoir une texture. C'est un outil, là, qui m'a vraiment, là, c'est un outil extrêmement, extrêmement hot. J'ai pas d'autres mots.
Après ça, ça devient un beau laboratoire où tu commences à expérimenter, tu développes des trucs, puis là, tranquillement, tu te dis, OK, mais telle approche, tel élément, finalement, ça peut servir pour l'album, puis à un moment donné, tu réussis à trouver tes couleurs, tu réussis à trouver tes textures, tu réussis à trouver tes superpositions. Puis, tu sais, dans le fond, ça s'est beaucoup fait de ce que j'en comprends avec la couverture où, en parallèle, dans le fond, tu avais de la couverture. Puis après ça, tranquillement, avec les pages, on travaille, on sketch, on fait nos castings. Puis, à un moment donné, tu dis, OK, là, c'est l'esthétique que je veux donner au récit que je suis en train de préparer.
Ouais, c'est ça. C'est qu'au départ, ça ressemblait vraiment plus à Alice dans le sens que. C'était moins défini, moins. Il y avait encore beaucoup de couleurs, mais c'était très, très lousse. Faudrait vraiment que je montre une comparaison. Mais c'était à force de travailler une planche à un moment donné que j'essaie de me rapprocher de plus en plus de la couverture. Puis à un moment donné, je l'ai trouvé. Puis j'ai fait, ah, c'est okay. Ça va être de même, je vais faire l'album complet. T'sais. Fait que c'est des essais-erreurs, mais ce qui est magnifique du digital, c'est ça, c'est que. Tu peux revenir deux étapes en arrière, essayer d'autres choses. T'sais.
Le CTRL-Z a ses avantages.
Exactement. Puis sur l'iPad, c'est deux doigts. Il n'y a pas de clavier, donc pas CTRL-Z, mais tu tapes avec deux doigts sur l'écran, puis pouf!
Et est-ce qu'il y avait pas mal d'allers-retours entre scénario, dessin, où tu travailles un peu le côté esthétique, tu travailles un peu le côté narratif, ou est-ce que tu as vraiment tenté de segmenter, dans le fond, la job entre les deux aspects?
Ouais, c'est qu'il y a eu un va-et-vient entre le découpage, mais aussitôt que le scénario était fini, c'est que dans le fond, comme tu m'as dit au début, j'avais mes morceaux de puzzle, puis à partir de là, je me faisais comme des bullet points un peu, là. Dire comme, OK, je veux toucher ça, je veux que ça arrive à un moment donné, tu sais pas trop comment l'incorporer. Puis avec ça, je me suis comme fait un plan assez large, et j'ai commencé à le découper. Fait qu'avant même d'écrire le script. Juste pour sentir le rythme, voir comme, OK, comment qu'il se rend à la maison? Ça prend combien de pages, ça? Puis pendant ce temps-là, t'as une idée vague un peu des interactions des personnages, des dialogues, tout ça. Et quand mon découpage était fait, là, je regardais ça et là, j'ai écrit un script complet. Donc, avec dialogue. Évidemment, vu que le script était pour moi, ben je n'écrivais pas certaines choses comme l'environnement ou comme une action qui est évidente. Là. Mais oui, il y avait un script avec dialogue et tout ça. Puis à partir de ce script-là que j'ai fait approuver, que j'ai envoyé à Glenna, ben là, j'ai commencé à faire les pages. Fait que aussitôt que le script est fait, il n'y a pas vraiment eu de réécriture après. Là.
En fait, la réécriture s'est faite directement avec le dessin, dans le fond, dans le
C'est
développement
ça.
de l'histoire comme telle. Et l'histoire, dans le fond, plongeons-en, j'ai l'impression qu'on tourne un peu autour du pot depuis presque une demi-heure sans avoir dit exactement c'est quoi l'histoire. On en a donné quelques indices, là, mais si on fait atterrir tout ça, donc on a un couple qui arrive en campagne, donc on comprend, tu l'as dit, d'entrée de jeu, dans le fond, ils ont hérité d'une maison. Évidemment, c'est un récit horrifique, donc on se doute bien que la maison n'est pas exactement comme on peut imaginer. On prend pour acquis que la campagne n'est pas exactement comme on peut l'imaginer non plus. Et là, tranquillement, les éléments se placent. Tranquillement, dans le fond, la relation, évidemment, entre ces deux personnages-là, les personnages ou quelques personnages qui gravitent autour, donc où se trouve cette maison-là, le village et le reste. Et tranquillement, on amène l'idée de la chanson noire, et tranquillement, on amène l'idée de l'éclipse, et tranquillement, on amène plusieurs idées d'éléments potentiellement perturbateurs. Il y a un arbre à l'extérieur de la maison. Il y a quelque chose dans la cave qui se passe, peut-être. Il y a des voisins qui sont assez spéciaux. Et donc là, ça devient un peu un dosage, et on tombe dans le rythme, au bout du compte, où on place ces éléments-là et où on développe un peu cet univers-là tranquillement.
Ouais, tu viens de me faire penser à un truc quand je faisais le découpage puis l'écriture en même temps, les deux c'était pas mal en parallèle. À un moment donné, je m'en reviens vers ma blonde, puis je suis comme, hey, je suis en train d'écrire de quoi là, mais ça prend pas en toute la forme que je pensais. Tu sais, on dirait que c'est en train de devenir d'autres choses. Puis elle m'a juste regardé, tu sais, comme une mère qui est fière de son petit pitou là. Elle m'a juste, tu sais, comme taper l'épaule, faire comme bravo, c'est ça écrire, tu sais. Ça va pas correspondre exactement à ce que tu as en tête au départ. Fait que l'une des affaires qui s'est ajoutée, c'est justement l'ambiguïté entre le rêve, la réalité, ce jeu-là qui se passe dès le départ de l'album, là. On ne sait pas trop, là. À chaque fois qu'il se passe de quoi, ah là, c'est-tu un rêve, ça, ou c'est un souvenir? Puis de jouer avec cette notion-là, c'est ça que je trouvais le plus intéressant, finalement.
Oui, parce que ça, c'est l'élément clé. Tu le mentionnes. Dans le fond, rapidement, les personnages ont des cauchemars. On sent qu'il y a un univers onirique qui se place un peu côte à côte, que la frontière entre le réel et l'irréel, dans le fond, est relativement ténue. Et en même temps, j'imagine qu'en imaginant aussi ce type de séquence-là, l'auteur, le scénariste Jake Dion fait plaisir au dessinateur Jake Dion parce que dessiner un cauchemar, créer une ambiance de cauchemar, ça me semble aussi être un assez beau laboratoire. Puis, je veux dire, en termes de mise en scène, il y a des rêves, il y a des délires, il y a des éléments psychotroniques presque qui sont assez éclatés aussi en termes de mise en scène. Et c'est là qu'on pousse aussi encore plus les éléments d'ambiance dont on parlait tantôt.
Oui, je suis d'accord avec ton observation.
Et peut-être en fait, chose importante aussi, avec ton récit, il y a quand même quelque chose de très, très groundé. Exemple, des problèmes de couple, on parle d'alcoolisme, on parle de sujets qui sont quand même sérieux, peut-être un peu plus entre guillemets terre à terre. Donc, je reprends mon latinisme, groundé en termes de récit. J'imagine que c'est important d'avoir ce volet-là pour complémenter ou faire écho à un volet qui est un peu plus éclaté en parallèle.
Ben oui, exact. Parce que si c'est juste à propos des créatures, des gros monstres, des cauchemars, mais que tu te fous des personnes qui sont en train de vivre, ben ton récit fonctionne pas. T'sais. Fait que je sais pas si moi j'ai réussi à faire ça, mais le but c'était ça, c'était d'essayer de rendre ces personnages-là plus humains pour qu'on s'en foute pas de ce qui lui arrive. Puis, ça aussi, c'est une question que je m'étais déjà fait poser avant. C'était comme, est-ce que c'est ton couple? Est-ce que c'est quelque chose que. Puis, tu sais, oui et non. C'est-à-dire que le but de départ, c'était pas de, ah, je vais enfin pouvoir extérioriser tout ce que je pense du couple, etc. C'était plus. Bon, là, ça me prend un dialogue d'un char entre deux personnes. Sur quoi je peux baser ce dialogue-là? Ben, va pas aller trop loin. Check ta vie, regarde c'est quoi tes interactions.
D'où le fait que le
Évidemment.
personnage principal est un dessinateur, donc ça facilite aussi peut-être un peu les enjeux ou
Ben oui,
d'aller
c'est
puiser
ça.
dans ton dans tes frustrations ou dans tes espoirs.
Parce que, encore là, tu sais, c'était comme au départ, c'était supposé être un écrivain. Puis là, c'est comme, pourquoi c'est un écrivain? Pourquoi c'est pas un auteur de BD, tu sais? Write what you know. Stephen King a écrit des écrivains Parce qu'il est un écrivain, mais moi, je suis un auteur de BD. Fait que je sais, c'est quoi se faire dire Ah, t'es petit bonhomme? Puis, tu sais, les frustrations qui viennent avec ça. Puis, compléter une page, puis faire comme Ah, fuck, c'est de la merde. Fait que j'étais comme Ben oui, why not? Fait qu'à partir de maintenant, tous mes personnages principaux seront des auteurs de BD. Toutes.
Et avec, en fait, donc, ces éléments un peu plus terre-à-terre, tu nous amènes dans différentes ambiances, évidemment, donc autant des moments plus intimes de couple pour nous qualifier, nous présenter qui est ce couple-là, puis autant des moments plus humoristiques aussi, notamment avec les voisins, mais souvent l'humour qui oscille entre OK, c'est drôle, puis OK, là, ça devient peut-être un peu malaisant aussi, donc qui a comme un sentiment de balancier, si on peut dire, qu'on a par rapport aux voisins qui sont drôles, mais qui sont aussi extrêmement malaisants au
Ouais.
final.
Ouais, puis ça encore là, c'est basé sur une expérience vécue. J'ai eu pendant une période de ma vie deux voisins qui étaient tellement intrusifs, mais tu sais, qui ne comprennent pas les signaux, là. Puis tu sais, c'était le genre de voisin que tu t'en vas au dépanneur, là, t'ouvres ta porte, puis ah, il est assis sur ta galerie, puis il boit une bière. Puis tu fais comme bon. Puis là, il commence à te raconter sa journée. Puis là, tu fais mon Dieu. Là, je peux pas aller au dep. J'ai peur de sortir de chez nous. Ma blonde est encore couchée. Comment tu gères ça, là? Puis, ben évidemment, c'est ça. On essaie de se baser sur des trucs. Fait que l'humour, je pense que j'espère que ça semble pas trop forcé. Toi, t'as-tu trouvé que ça avait de l'air forcé un peu ou.
Non, mais en fait, je trouvais que ces tons-là me semblaient nécessaires parce que si on était que dans le malaise, si on était que dans les ambiances un peu oppressantes aussi de l'album, ben, on perdrait. Il faut avoir de la légèreté pour avoir du lourd. Puis je trouve que, dans le fond, tu me semblais avoir trouvé un équilibre entre ces dimensions-là.
Ouais, puis en même temps, tu sais, la vraie vie, c'est ça aussi. Tu sais, même si tu vis un drame ou quelque chose de super sérieux, tu vas tout le temps avoir de l'absurdité qui va se mêler à ça, puis des moments là, de t'as un recul, tu fais comme mon Dieu, qu'est-ce qui se passe là? Puis tu sais, ça te fait rire, ça te fait sourire. Fait que tu sais, je pense que c'est venu naturellement, en tout cas. Voilà.
Oui, puis en fait, ce qui est intéressant, c'est narrativement, je vais donner quelques exemples précis, mais je fais la parenthèse. Si vous sentez, auditeur, auditrice, qu'on commence à tomber dans le un peu trop précis à votre goût, pour moi, c'est un roman qui, ben, une bande dessinée qui se lit. Enfin, vous êtes toujours mieux de tomber un peu dans l'inconnu avec ce livre-là, à mon sens, je pense, puis de le découvrir en première instance parce qu'il y a des choses qui méritent d'être découvertes dans le livre ou d'être vécues au premier chef. J'ai fait cette parenthèse-là. Maintenant, pour les prochaines minutes, je vais tomber dans un exemple un peu plus précis parce qu'on parlait de rupture de ton ou d'évolution dans le ton à la limite. Je pense que l'exemple du souper du chien sert bien. Je contextualise, dans le fond, ton couple est censé recevoir une voisine quelconque pour souper. La voisine, on a établi un peu avant, est un peu agressée par le chien est jeune, il n'est pas super habile socialement pour pas japper, pour pas déranger. Donc, elle a dit à son chum, mais pourrais-tu le descendre dans la cave? Mais on a établi aussi que dans la cave, il y avait quelque chose, peut-être, on ne sait pas c'est quoi, mais le chien réagit très fortement à ce qui se passe. Et là, on passe de l'étage, d'une situation qui est très quotidienne, et on bascule en deux cases essentiellement dans le drame. On passe d'une couleur de fin de soirée à l'étage, et dans la cave, c'est noir. On distingue un peu des flashs d'éléments. Donc, il y a un battement qui se fait aussi au niveau de la mise en scène de ces planches-là. Parle-moi peut-être un peu de ton travail avec l'exemple de cette séquence-là, peut-être justement comment tu l'as développé un peu celle-là.
Ben, quand on parlait des morceaux de puzzle, c'est qu'il y a une couple d'années, j'ai fait. C'est un cauchemar, puis c'était exactement cette scène-là. Puis c'est un cauchemar là, que tu te réveilles en sueur froide, puis tu n'es pas capable de le shaker off. Là. Ça t'habite encore, là, puis tu es encore dans le sous-sol avec un chien qui crie, qui pleure, puis que les lumières sont cassées, puis tu vois rien, mais tu entends de la vitre, puis tu sais. Puis à l'époque, j'avais un coloc, puis je prenais mon café le matin, puis il est comme, voyons, man, ça va-tu? Puis je commence à y raconter ce rêve-là. Puis quand j'ai terminé d'y raconter, il est juste resté en silence. Puis il fait « Wow, man. Hey, man, faut que tu mettes ça d'une BD à un moment donné. » Et tout le long, j'étais quand même « OK, faut que je plug ça. Comment je plug ça? » Puis je suis content qu'il y ait des gens qui sont comme « Ouais, c'est comme le seul élément qui a comme pas rapport. » Parce que c'était aussi ça un peu le désir, c'est... Un de mes films d'horreur préférés, c'est Pet Sematary. Puis il y a une histoire là-dedans. T'sais, évidemment, Pet Sematary, c'est un cimetière qui ramène les morts à la vie, etc. Mais il y a une histoire là-dedans qui n'a aucun rapport avec le cimetière. Puis c'est juste la femme qui raconte que quand elle était petite, il fallait qu'elle s'occupe de sa sœur qui était handicapée, mais aussi déformée, t'sais, difforme. Puis ça n'a jamais aucun lien avec le maudit cimetière vivant, mais ça ajoute comme. C'est comme un film dans un film, là. Puis j'étais comme. Ah, moi, c'est ça que je voulais faire. Tu sais, je voulais comme inclure une séquence dans une séquence. Tu sais, une micro-histoire dans l'histoire plus grande. Mais ensuite, j'étais comme. Mais il faut quand même que ça ait un lien, parce que si c'est juste sorti de nulle part, ça ne marchera pas. Donc, si on remarque, là, il y a une séquence de 2 pages qui est un splash page où on peut voir cette séquence-là, en fait, qui est un trip psychédélique. C'est une map. Puis tu vois le fil conducteur de toute l'histoire dans ces 2 pages-là. Ça te dit même la fin. Ça raconte tout. Fait que quand je disais moi, pour moi, il y a une fin très claire, très précise, mais je l'ai laissé libre d'interprétation. Mais j'ai laissé des exemples, des petits indices tout le long de la BD pour pointer vers ma finale, même si tu n'as pas la même que moi, c'est bien correct. Mais dans ce double page-là, il y a beaucoup de clés pour trouver la fin, dont l'histoire du chien est un peu expliquée par ça aussi, là.
Oui, parce que c'est tout autour vers la parenthèse, c'est quelque chose qu'on a discuté un peu en amont où tu me demandais justement comment tu as vécu l'album. Et c'est clairement quelque chose qui, en première, deuxième lecture et plus, dans le fond, on s'approprie beaucoup ce récit-là. Pour moi, l'horreur, c'est aussi un genre qui est actif, dans le fond, parce que justement, tu laisses des questions. Le malaise vient aussi de l'impression d'absence de réponse, mais ça devient important aussi quand même de pouvoir éventuellement ramener le lecteur à l'album puis dire, ben, oui, mais les éléments sont placés, il y a des éléments qui sont là, qui ne sont pas nécessairement évidents au premier abord, mais qui par après, quand on le relit, ben, on peut justement retomber un peu là-dessus, puis venir asseoir un peu certains malaises ou aller chercher quelques explications dont on avait besoin. Donc, tu gardes ton lecteur actif, au bout du compte, avec des procédés comme ça.
Ben, c'était ça l'objectif. T'sais, après ça, je pense que ça va dépendre du type de personne, si ça a marché ou non pour eux, là. Mais c'est que pour Chanson Noire, j'avais une limite de page. Puis moi, évidemment, j'aimerais ça que tous mes projets fassent 200 pages, juste en termes de narration et de rythme, pas en termes de travail. Je veux pas nécessairement que tous mes albums fassent 300 pages, mais. Je trouve ça le fun quand quelqu'un s'installe devant une BD puis qu'il reste un bon moment avec. T'sais. Une des pires peurs là, que j'ai, c'est de travailler un an sur quelque chose qui se lit en 10-15 minutes. Puis je sais que Chanson Noire, elle peut se lire rapidement à cause justement du nombre de pages. Puis aussi, c'est pas si verbeux que ça. Il n'y a pas. Y a des dialogues, mais il n'y a pas énormément de texte. Il n'y a pas une pensée interne. Il n'y a pas. T'sais. Fait que j'étais comme, ben, le seul moyen que je puisse faire étirer ou au moins suggérer un rythme un peu plus lent, ben, c'est que si les gens y retournent, t'sais. Puis une des raisons pourquoi ils pourraient y retourner, c'est de pas être sûr d'avoir compris, mais que ce soit positif, t'sais. Pas parce que c'est mal expliqué ou mal fait, mais juste faire comme, attends un peu, là, mais là, si ça finit comme ça veut-tu dire que. Puis. J'aime bien aussi l'idée que. Puis ça, c'est une structure là, d'histoire, mais l'idée de la boucle. Je sais que pour bien du monde, ça lui tape ses nerfs, là, le truc cyclique, là. Mais il y a quelque chose que je voulais toucher là-dedans. Tu sais, la première, la dernière page, c'est pratiquement la même. De genre. Ça arrête jamais vraiment. Tu sais, tu pourrais leur partir, puis tu sais, c'est plus fluide de cette manière-là.
Oui, puis dans un contexte, en fait, où tu as comme quand même un bon crescendo tout au long du récit qui nous amène jusqu'à la chanson noire du titre comme telle, jusqu'à l'éclipse. Puis après ça, le récit se termine pas là, il y a des choses qui se passent. Et dans le fond, si la dimension cauchemar versus réalité est peut-être plus, entre guillemets, claire en première moitié, où on a des découpes un peu je dirais pas une alternance, mais disons-le comme ça, après ce moment-là, après ce point d'orgue du récit-là, là, tout s'en mêle un peu en première lecture encore là. Donc, je trouve que ça vient ajouter à ce dynamisme-là de structure aussi, parce que, mais en même temps, j'imagine que sachant que tu amènes ton album vers une apothéose, vers ce moment-là, que tu hypes aussi quand même pendant la première moitié du récit, ben, ça veut dire aussi que ce moment-là, il faut qu'il fonctionne de bout en bout. Et là où tu fais, je ne rentrerai pas non plus dans le détail là-dessus, mais où, bon, il se passe des choses, il y a des choses qui se consomment, qui se font, qui se vivent. Et il faut que tu réussisses à rendre ça narrativement, il faut que tu réussisses à rendre ça visuellement aussi pour nous faire comprendre ce qu'ils ressentent. Et c'est là qu'on explose aussi toute la méthode dont on parlait tantôt. Je pense que c'est un peu à plusieurs égards le paroxysme de ton album.
Wow, ben merci parce que c'était ça l'objectif. Fait que, puis même, tu sais, dans mon plan là, d'écriture au début, je me suis même fait, tu sais, comme une genre de courbe là, tu sais, qui monte et qui descend, puis que là, ça monte de plus en plus, tu sais, comme une espèce de petite montagne russe là, pour faire comme, OK, ben quand qu'on va être rendu là dans l'histoire, il faut que ce soit le paroxysme, justement, là, tu sais, le point le plus intense. Fait que, tant mieux si tu l'as senti, je trouve que à date, là, tu me dis tout ce que je veux entendre sur l'album.
Et comment tu l'as travaillé cette séquence-là, sans rentrer dans le rendu comme tel, mais tu sais, pour moi, rendre quelque chose qui pourrait être un délire, qui est peut-être réel, qui est peut-être pas réel, qui est peut-être un cauchemar, qui est peut-être vrai, qui est tout ça en même temps, avec des couleurs, bon, saturées, des récits, tu joues avec les personnages, on joue avec le trait, on fait des distorsions un peu, presque un peu là-dedans. Comment ça s'est placé? Puis, j'imagine qu'à un moment donné, tu t'es rendu compte que tu avais réussi ou c'est instinctivement arrivé très rapidement, très facilement.
C'est weird. Pour vrai, c'est un mix de tout ce que tu viens de dire là. Cette année-là, là, c'est tragique. L'auteur, le mangaka Kentaro Miura est mort, puis c'est lui qui faisait Berserk. Et pour n'importe qui a lu Berserk, il y a une scène d'éclipse assez mémorable, assez traumatisante. Puis je savais pas exactement comment faire cette scène-là. Puis quand le mangaka est mort, j'ai relu tout Berserk. Puis c'est extraordinaire, c'est une de mes BD préférées à vie. C'est un chef-d'œuvre absolu pour moi. Puis après ça, je suis allé super instinctivement. T'sais, fait qu'il y a une éclipse dans le manga, c'est super intense, mais je regardais pas genre les pages faire que « Ah, je vais faire comme ça ». C'est plus en lisant après ça, cette émotion-là. Puis aussi, c'est que à travers Alice, j'ai bien gros exploré, tu sais, le découpage non linéaire, là. C'est-à-dire que il y a des fois, tu sais pas trop regarder en premier, mais c'est pas grave. Des fois, ça peut être maladroit d'essayer de faire ça quand que tu veux vraiment diriger d'un point A à B. Mais là, c'était comme, c'est pas grave si ton œil va à gauche tout de suite, puis après ça, il se redirige vers le haut. Il y a comme quelque chose que j'aimais là-dedans aussi, d'une espèce de chaos, une espèce de montage séquentiel chaotique, là. Puis voilà. Fait que ça s'est fait finalement d'instinct, mais il a fallu que je me redirige vers un grand maître un peu là, pour m'inspirer.
Et puisque tu parlais de boucle, faisons la même chose aussi pour l'entretien, puisqu'on a commencé à parler beaucoup de musique et d'harmonium, mais au bout du compte, à part donner l'inspiration de départ, le ton de l'album et le développement a plutôt été accompagné par une autre trame sonore qui a été construite par ton père, qui n'était pas en lien avec l'album, mais son album Hymn, auquel tu réfères d'ailleurs, si les gens achètent l'album, l'adresse est là, tu me dis, ben, écoutez ça pendant que vous lisez, parce que moi je l'écoutais pendant que je dessinais. J'imagine que c'est arrivé un peu, si tu me permets, un autre latinisme, out of nowhere, puis ton père est arrivé avec cet album-là que tu as entendu au bon moment exactement. Ou...
C'était exactement ça. Puis, tu sais, mon père, qui est un compositeur, ben, qui sait son travail, puis il a fait ça toute sa vie. Puis là, il s'est comme lancé dans cet album-là, sans que je. Tu sais, il m'en a pas vraiment parlé. Il a composé de son bord, puis Moi, il savait que je travaillais sur une BD que j'écrivais moi-même, mais il savait pas trop si ça parlait de quoi. Puis il m'a juste fait écouter ça, puis ça faisait des semaines, des mois que je cherchais comme une source d'inspiration musicale juste pour travailler pendant, tu sais, que j'écoutais ça. Puis là, il est tombé, tu sais, cet album-là, il m'a envoyé ça, puis j'en revenais pas, là. C'était comme si c'est exactement la trame sonore. Tu sais, si... Puis même, il y a même un point où ça devient presque troublant parce que chronologiquement, ça fit. L'intro, c'est l'intro de l'album. Puis au milieu, ben, t'sais, il y a une petite pièce qui est un peu plus mélancolique, douce. Puis t'sais, il y a quelque chose qui se passe comme ça dans l'album. Puis à la fin, c'est juste après le crescendo, c'est la chute. Puis là, tu sais, j'en revenais pas. J'étais comme, c'est à ce point marquant qu'il fallait que je le marque dans l'album. J'étais comme, si les gens peuvent écouter ça pendant qu'ils lisent, ils vont avoir l'expérience que je lui souhaite le plus d'avoir, là.
Puis j'imagine que ça doit être plaisant de pouvoir intégrer comme ça ta création, le travail de ton père aussi,
Exact, ben oui.
en influence indirecte, là, mais tu sais, c'est de voir un peu comment entre individus on peut s'alimenter aussi, des fois même sans savoir. Là.
C'est ça, tu sais, je l'aurais jamais fait si ça me touchait pas, puis si j'y croyais pas, puis je l'aurais jamais fait juste pour plugger mon père, tu sais. Mais là, c'était tellement proche de l'album, puis de l'ambiance que je voulais faire, que tu sais, je suis devenu ému là, en l'écoutant, puis je suis allé chez lui une couple de jours après, puis on a parlé là, pendant des heures, puis là, j'y racontais ma BD, puis j'étais comme, tu vas voir, là, tu sais, quand tu vas être rendu à tel point, ben moi, c'est ce tune-là que j'avais en tête. Puis, t'sais. Puis fait que ça et tout, moi, je trouve ça super le fun. Puis là, il m'a dit qu'il y avait parce que c'est sur Bandcamp, il m'a dit qu'il voyait un roulement là, de plus depuis que Chanson Noire est sortie. Là. Fait que j'étais comme, ah, OK, cool. Il y a du monde
Il y a un
qui
effet, il y a
écoute
un
mon nom.
impact. Et là, Chanson Noire est terminée pour toi. Tu l'as mentionné, Jake Dion. Dans le fond, tu poursuis sur un autre projet, un projet peut-être plus personnel. Donc, tu t'en vas dans un autre style, dans un autre style visuel aussi. Donc, mais visiblement, dans le fond, le Jake Dion scénariste est là pour rester, là.
Ouais, puis c'est quasiment, tu sais, c'est un beau problème que j'ai parce qu'il y a comme trop d'histoires que ça me tente de raconter. Puis tu sais, si les lecteurs me suivent, là, moi, je suis comme, OK, bon, ben, on part, là, tu sais, let's go. On a beaucoup, puis beaucoup de styles différents, en fait. C'est ça qui me tente, là. J'ai pas envie de refaire un Chanson Noire 2, tu sais. Fait que le prochain album. Ça va être, c'est ça, de l'autofiction très absurde, très trash. Ça va s'appeler Les joies de la dépression. Puis je suis en train de l'écrire présentement. Puis c'est un autre défi complètement. Puis après ça, un jour, on va retourner au robot géant, puis au kaiju, puis tout ça, c'est sûr, sûr, sûr.
Oui, ben fait comme tu disais, si tu avais envie de faire tes histoires pour pas t'encarcaner dans un style ou dans un procédé, ben nécessairement tu t'imposeras pas de te répéter non plus
Exact,
à
exact.
toi-même. Et évidemment, en attendant cet album-là, ben il y a le Chanson Noire dont on parle qui est disponible, c'est chez Glénat, c'est de Jake Dion et on vous le recommande, vous l'aurez compris également au fil de
Yes.
l'entretien. Alors Jake Dion, merci beaucoup.
Hey, merci à toi. Puis pour vrai, c'est un honneur de faire partie de ton show, de tes invités. Puis j'admire beaucoup ton travail. Puis je trouve que tu es excellent. Puis. Je prends pas ça pour acquis, me faire inviter chez vous, fait que ça me touche énormément.
Oh, mon Dieu, je le prends. Merci beaucoup, Jake. Puis merci à toi pour
Yes.
le livre. Donc,
Cool.
on termine en s'auto-congratulant. C'est toujours bien. Alors, merci beaucoup, Jake Dion. Et ben, auditeurs, auditrices, merci également à vous. Et on se dit à la semaine prochaine ici à La Vie en BD. C'était Raymond Poirier au micro.